Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Dans le bureau de Par Jupiter.
Il faut redonner du sens à notre travail, les amis. Il faut garder cette énergie qu'on avait en début d'année. On est une équipe, on est une équipe.
Salut Charlie.
Ah, bonjour les garçons. Bah, hey, comment ça va ce matin? We are together, ok?
Together. Ouais.
Est-ce que vous êtes en forme?
Bah, j'ai un peu mal dormi, mais ça va.
Pareil, ouais, c'est
non,
pas...
Ça arrive à tout le monde d'avoir un petit coup de mou.
Non, ça va.
Si, je sens bien, vous êtes un peu à bout là.
Bah, non, on n'est pas là. Non.
Aujourd'hui, les garçons, oui. Je veux que tout le monde se sente bien et je serai votre Chief Happiness Manager.
Oula, ça promet ça.
Qu'est-ce qui lui arrive?
Non, mais on va pas se laisser abattre. Tiens, allez, Guillaume, prends ton macchiato.
Ah non, mais moi, je voulais juste un café.
Prends ton macchiato.
Ok.
Allez, team working, je vous propose qu'on se mette dans le process ASAP, ok?
Dire qu'on doit commencer à travailler.
Ouais,
et je veux du smile.
Attends, mais Charline, t'es sûre que ça va?
Mais bien sûr que ça va, puisque mon travail m'épanouit chaque jour de plus en plus.
10h40, dans le bureau de Par Jupiter.
Non, mais il y a trop d'invités, puis il y a trop de sujets, trop d'informations.
Trop de brèves.
Non, mais si, si, ah, si, ça aussi. Et puis moi, j'ai pas vu parce que je suis à deux doigts du burn-out, du nervous breakdown. Et en décembre alors.
Ne lui dis pas le moi. Charline. We are together.
Together
in the bullshit.
Mais moi je voulais du smile. Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour. Mieux vaut avoir un petit iPad chez soi qu'un grand MacBook chez les autres. Et voici le menu du PowerPoint de cette émission. Un Français sur trois est mécontent de son manager. Pour un Français sur trois, son N+1 est un con. Le N+1, c'est votre supérieur hiérarchique dont vous êtes...
Regarde lequel de nous trois pense que vous êtes... Enfin, voilà.
Donc, le N+1, c'est votre supérieur hiérarchique, voilà. Dont vous êtes le N-1. Donc le con, c'est l'autre. Enfin, celui qui est au-dessus. Ouais.
Mais évidemment, personne n'écoute personne dans cette équipe. Mais vous voulez que je vous dise, ça fait des mois, ça fait des années que vous me faites chier tout.
Le bien-être. Oui, le bien-être du peuple. C'est la priorité de la Corée du Nord qui met tout en œuvre pour bâtir une culture de la bonne humeur à coups de parcs d'attractions, de piscines dans les grandes entreprises et de karaoké. Bref, une dictature du bien-être portée à son apogée.
Souriez, bon sang ! Souriez ! Allez-y, vous.
Partager son expérience de manière bénévole avec un jeune, c'est être un mentor. A contrario, un jeune millénial
C'est comme vous voulez.
Il y a gnoll dedans de toute façon.
Un jeune qui formerait les plus vieux aux technologies, c'est un mentor aussi. Bah, c'est du partage d'expérience, quoi.
Il envoie à des conférences, donner le goût d'apprendre.
Et alors?
Faut pas apprendre, faut donner le goût d'apprendre.
Bah oui,
Alors bah, je suis pas allé.
Alex,
donnez-moi le goût.
Qui va donner l'input des chroniques, monsieur?
Bah, une grosse team, peut-être une very good team, with the very good smile. À 17h20, il revient, revient. C'est un passionné, c'est le plus scientifique d'entre nous. Et ça tient pas de l'exploit, je vais vous dire. Il suffisait de trébucher une fois sur un Science et Vie pour être une référence pour les autres. Bonjour Max Bird.
Et bonjour à tous, cucui.
De quoi on va parler?
On va parler des prix Nobel de médecine.
Ah, ça tombe bien parce que nous, on l'avait pas bien pigé. À 17h30, celui qui mérite une prime de pénibilité car il fait un travail qu'on ne souhaite à personne, parler avec des Français. C'est vous, Guillaume
Meurice. Bonjour à tous. Et ben, je vais vous parler du thème préféré de notre invité. Je suis allé à un rassemblement d'entrepreneurs pour les questionner sur le bonheur au travail.
C'est le moment où on se lève le matin et je pense qu'on se dit putain, yes, je vais aller travailler, quoi.
La grosse folie.
Et enfin, à 17h40, celle qui en ce moment écume les salons du livre virgule, c'est Juliette Arnaud. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour tout le monde.
De quoi on va parler?
Tant pis pour l'amour.
Eh bien très bien.
Et voici celle qui va élever cet open space. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes
Julia de Funès. Enchantée, bonjour.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Julia de Funès.
Bah, merci.
Vous êtes philosophe et vous publiez un essai intitulé « Développement impersonnel », le IM d'impersonnel étant entre parenthèses sur le titre, sous-titre « Le succès d'une imposture » paru aux éditions de l'Observatoire. Vous écrivez la littérature de développement personnel, de bien-être, etc. en disant « La béatitude est sur pilotage automatique, nous voilà propulsés dans la pensée positive ».
qui positive plus qu'elle ne pense. C'est le non-esprit du temps. Et vous expliquez dans cet ouvrage notamment que c'est un business énorme. Littérature, bien-être et développement personnel, c'est 53 millions de chiffres d'affaires. 31% des Français lisent un de ses livres. Alors, je vais vous trouver quelques titres parce que c'est qui aime bien Fandard.
Je les ai pas inventés, hein.
Ouais. Non, je sais.
Je les ai juste un peu modifiés.
La recette du bonheur, les clés de l'épanouissement, l'authenticité, deux points, mode d'emploi, les 5 blessures qui empêchent de vivre, ranger sa maison pour mieux se trouver et notre préféré, ne pas contrarier son intestin pour vivre équilibré. Et bien sûr, dans cet ouvrage, vous êtes philosophe, vous démontez les méthodes rhétoriques de ces livres, des coachs, etc. Alors déjà, posons les bases. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui une vie réussie, ce serait une vie épanouie? C'est ça le Graal. Qui a décidé ça?
Personne, il n'y a pas de... C'est un mouvement social, global, historique, global. J'en fais la généalogie dans le bouquin. Mais en gros, de façon très synthétique, si on parle de l'Antiquité, on attendait du cosmos qui guide les existences. La vie réussie, c'était une vie où on trouvait sa place dans le cosmos. Ensuite, les religions sont venues guider les existences. On attendait de Dieu qu'il guide les existences. Les politiques, la politique aussi, avait tendance à guider, orienter les chemins existentiels. Et puis maintenant, toutes ces grandes transcendances, on le voit très bien, se sont effondrés progressivement. L'autorité a perdu de sa superbe. On le voit très bien avec les gilets jaunes. On voit très bien à quel point les politiques ont perdu de leur prestige. Et du coup, c'est à l'individu seul de trouver son chemin, de réussir sa vie. Et face au vertige du « sois toi-même, réussis ta vie », quand on est seul face à soi-même, il faut bien se sentir épanoui. C'est finalement le Graal aujourd'hui. Et on comprend du coup tout ce besoin d'outils en tout genre, de livres, de recettes pour essayer de trouver un sens à sa vie et de s'épanouir.
C'est-à-dire que le cosmos, la religion, le politique, c'était des choses extérieures, voilà. S'effondrant, il faut qu'on trouve en nous, et donc on se met l'angoisse, la pression, notre vie, elle dépend de nous, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est anxiogène pour le coup, ouais. C'est vrai, parce que là, on est seul. Si on réussit sa vie, c'est grâce à nous. Si on la rate, on en est l'unique responsable.
Ou alors, c'est à cause de nos parents. Merci les psys.
Voilà. Alors, Juliette de Funès, jamais un enfant ou jamais un ado n'a dit un jour « Moi, plus tard, je voudrais faire coach de vie quand je serai grand. » Alors, pourquoi?
Vous savez, les coachs m'en veulent beaucoup, ils sont énervés en ce moment, mais je vais redire ce que j'ai écrit malgré tout. C'est un profil, il y a un profil type. On n'est pas coach à 20 ans, il faut attendre d'avoir 40 ans, 50 ans, d'être dans une deuxième période de vie professionnelle pour être coach. Et souvent, c'est pas une vocation longuement mûrie. On rêve pas effectivement d'être coach. Et très généralement, le coach, la coach, a eu une vie professionnelle avant, soit par lassitude de son ancien métier, soit par incompétence. Quand on a envie de changer de job, c'est qu'on est incompétent ou qu'on en a marre. Et donc, soit pour ces deux raisons-là, on décide de se réorienter. Et c'est une réorientation professionnelle excessivement valorisante. C'est pour ça que tout le monde ou presque a envie d'être coach à 50 ans. Pourquoi? Parce que là, on commence pas en bas de l'échelle. On n'est pas dans un boulot qu'on commence de façon humble comme un débutant. Parce qu'on a forcément un ascendant sur les gens qu'on va venir aider ou en tout cas qui vont venir se faire coacher. Donc ce sentiment de supériorité explique le plaisir narcissique qu'on a à devenir coach et c'est très valorisant et en plus on est très bien payé pour ceux qui marchent parce qu'il y en a effectivement qui gagnent pas beaucoup leur vie sans beaucoup d'études. C'est très rapide, en moyenne 18 mois, pas 18 mois quotidiennement, 18 mois quelques heures par mois. Et puis, il n'y a pas de diplôme très compliqué à passer, donc c'est tout bénef.
Bon. Ils se sauvent eux-mêmes déjà.
Bah écoutez, moi, j'aime bien l'idée, je vais y aller. J'ai pris une formation.
Julia de Funès, votre conclusion, elle est implacable. Vous citez d'ailleurs le discours de la servitude volontaire de la Boétie, et vous dites que c'est, tous ces coachs et ces livres de bien-être, en croyant libérer l'individu, en fait, ne font que le soumettre. C'est-à-dire, on croit se relever en lisant ses livres, en se faisant aider, etc. Mais en fait, on est maintenu à genoux. Il y a vraiment un acte de soumission.
Effectivement, parce que souvent, dans ces ouvrages-là, là, je ne parle pas des coachs, je parle des ouvrages, on vous dit comment vous conduire. Donc, comment être authentique, par exemple, l'auteur va dire faites ceci, faites cela. Qu'est-ce que ça veut dire être authentique en suivant les conduites qu'un autre vous dicte? C'est quand même paradoxal. Qu'est-ce que c'est qu'un livre de développement personnel qui s'adresse au moi de chacun comme à des milliers de lecteurs? C'est quand même paradoxal. Donc tout ça, en général, la méthode, c'est de mettre sous cloche les individus dans des techniques comportementales, dans des programmes de conduite, dans des formatages finalement comportementaux. Et c'est une forme d'asservissement. Au lieu de se libérer, c'est une littérature qui se veut émanciper. émancipatrice et en fait qui n'est qu'asservissement, et c'est tout l'objet de mon livre en disant mais libérons-nous de toutes ces idéologies qui sont véhiculées à travers ce type d'ouvrage.
En gros, vous dites alors faites demi-tour et replongez-vous dans les littératures, les philosophes, remontez-vous
les manches. Pas forcément, parce que ça décourage tout le monde et je le comprends, la philosophie c'est quand même très rébarbatif. Ouais. Donc moi j'ai pas du tout une vision de la philo, ça va vous aider à être heureux, au contraire, parce que je tomberais dans ce que je critique, donc ce serait vraiment aberrant.
L'alcool, mais... même vous conseillez l'alcool.
L'alcool, je trouve ça très très beaucoup plus efficace, j'aime beaucoup. Non mais le sport, les activités manuelles, peu importe, intellectuelles, mais se plonger dans une activité ou autre, ça libère beaucoup plus. Mais l'intérêt de la philo, c'est qu'elle permet, grâce à sa rigueur de raisonnement, de pulvériser les faux raisonnements qu'on trouve par milliers dans ce type d'ouvrage ou dans les poncifs de coach.
Ça s'appelle Développement impersonnel, le succès d'une imposture. Julia de Funès, c'est aux éditions de l'Observatoire. Vous comprendrez que c'est vraiment notre kiff de parler de tout ça. Vous parlerez aussi de l'entreprise. Et puis vous démontez toutes les méthodes rhétoriques et vous citez beaucoup de philosophes. Et tout cela est mis en perspective historique. C'est passionnant. Julia de Funès avec nous jusqu'à 18h.
Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. On m'appelle pas, on m'invite pas dans les soirées. Watcha, je dois pas sentir comme il faudrait. L'argent et le succès, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. Ah 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 ah. J'ai pris ma tenue de combat. Avec ça, vous ne ferez pas le poids. J'ai payé quand même un peu cher pour un truc qui laisse dans la galère. J'ai changé plein de fois de messagerie, mais personne m'a encore dit oui. On t'appellera, t'inquiète pas, si ça nous plaît. Ouais, ouais, c'est ça. Je dois pas sentir. Bla bla bla, si ça nous plaît. Ouais ouais c'est ça. Je dois pas sentir comme il faudrait. Le money et le succès, et ça me vexe. Et ça me vexe. Et ça me vexe. Et ça me dans les soirées, ouais, ben tant pis pour toi. Ah, 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 ah.
Ça me vexe, Mademoiselle K.
Juliette, vous avez chanté pendant la chanson.
Mais oui, mais comment ne pas chanter sur Mademoiselle K?
Effectivement.
Comment ne pas? Quand on connaît, c'est pas la chanson, par exemple. Il y a plein de petites astuces comme ça qu'on vous donnera pendant l'émission. Restez à l'écoute.
Vous écoutez France Inter, Par Jupiter. La philosophe Julia de Funès est en notre compagnie. Elle nous parle de développement personnel, impersonnel plutôt, aux éditions de l'Observatoire. Et pour entourer Julia de Funès.
Eh ben déjà, tous les twittos qui l'adorent, qui vont se précipiter sur votre ouvrage, mais aussi on vous soutient avec Max Bird, Guillaume Meurice et Juliette Arnaud.
Merci l'information.
Et j'ai bien noté que, à partir des signes que j'avais indiqués, certains ont glosé, ont même fait de l'humour. Je trouve ça méprisable.
Le journal de presque 17h17.
Ah, pour rigoler, on rigole.
Et on commence par les titres.
Suite à la décision de Donald Trump de lâcher les Kurdes en rapatriant les troupes américaines sur place, la Turquie a lancé hier son assaut sur le nord de la Syrie.
Et oui, quitte à ce que des Américains se retirent au dernier moment, on aurait préféré qu'il s'agisse du père de Donald Trump, il y a 74 ans.
Et Trump a justifié sa décision par ces mots: les Kurdes ne nous ont pas aidés en Normandie.
Oui, Trump qui a tout fait pour reporter son service militaire pour au final être réformé. Il doit pourtant savoir que c'est quand même chouette de ne pas participer à un conflit.
Est-ce qu'il y aura des brèves?
Eh bien, je peux vous dire que pour les brèves, les Kurdes n'ont pas aidé des masses non plus. Eh bien, il y en aura quand même.
Ils sont pas très...
Non, bah non, ils sont pas aidants.
Non.
Commence par Christophe Castaner.
Ah. Oui, il a été auditionné au Sénat au sujet de l'attaque de la préfecture de police de Paris, bien sûr.
Voilà, et comme il avait envie de bien faire, il n'est pas venu tout seul avec son secrétaire d'État, Laurent Nunez.
Je crois qu'on doit pouvoir, on va vérifier, vous communiquez la fiche de poste de l'auteur. On va vérifier. Voilà.
Elle est
classifiée.
Elle est forcément classifiée. Ah oui. Touche à l'organisation, donc je... Et puis elle est bon, il y a l'enquête en cours.
Non, a priori.
Voilà.
C'est non.
Et oui, c'est toujours important d'avoir un mec compétent à ses côtés. Et Laurent Nunez n'a pas cette chance.
Municipal 2020 à Paris, Anne Hidalgo maintient le suspense sur sa candidature. Tu parles d'un suspense insoutenable.
Mais quel suspense! J'ai jamais connu autant de suspense depuis la dernière fois où j'ai demandé à Juliette, je te resserre un coup de blanc.
Hidalgo qui a déclaré par rapport au mouvement écologiste Extinction Rébellion, je soutiens les actions non violentes.
Eh ben, tu m'étonnes, vu que tous les conducteurs, les chauffeurs de taxi ou encore les livreurs rêvent de lui casser les dents, tu m'étonnes qu'elle aime la non-violence.
Politique toujours, là c'est un retour.
Oui, François Fillon.
Il a rendu l'argent.
Non.
Les costumes.
Non, les costumes non plus, il en avait un. Il était en Suisse, au salon de la communication, et il a donné son avis sur certaines choses, notamment les gilets jaunes.
Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose cette affaire de gilets jaunes. Il y a eu au maximum des manifestations 150 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes.
Ah oui, il avait fait mieux là.
Macron, c'est un petit joueur à côté. Ouais.
Voilà, lui c'est un petit joueur et on a hâte de voir revenir François pour 2022.
C'était au journal de la RTS.
Exactement,
chez nos amis suisses. Passons à cette interview de la directrice générale de Lubrizol.
C'était sur BFM TV.
Il va falloir prouver que c'est une pollution liée à l'incendie.
Eh ben oui, et je propose que cette dame aille faire tous les jours jusqu'à la fin de l'année son footing aux abords de l'usine. Et puis en janvier, on fera un petit prélèvement pulmonaire pour l'avoir le cœur net.
Sport à présent avec la Coupe du Monde de rugby. En raison d'un typhon, le match France-Angleterre est annulé. La France jouera donc en quart de finale contre le Pays de Galles.
Vous êtes forts les Français, hein. Vous avez trouvé le seul moyen de ne pas prendre une branlée contre l'Angleterre. Je peux vous dire, la prochaine demi-finale de Coupe du Monde, va y en avoir du typhon.
Et des brèves.
Il lève le bras et crie « Aïe Hitler », mais prétend qu'il criait « Votre carré de bulle » avec l'accent russe.
Ah, oui.
Et oui, mais c'est cohérent parce que la pub, elle dit « Red Bull te donne des ailes ».
La dernière.
Oui, la dernière
peut-être. Oui.
Selon un sondage IFOP, près d'un tiers des hommes ont déjà éjaculé avant la pénétration. Et si vous en faites partie, comme moi, rassurez-vous, au fond, on est les meilleurs.
Les meilleurs.
Parce que c'est toujours les meilleurs qui partent en premier.
C'est très gênant. C'est chic. C'est élégant.
Les grosses têtes.
C'est élégant. Poursuivons plutôt une discussion philosophique en compagnie de Julia de Funès avec ce premier sujet. Ils sont tous taillés pour vous, hein, je vous le dis.
C'est vrai.
Alors, on l'a tous pensé très fort au moins une fois dans notre vie. Et un reportage du magazine Society nous le confirme. Mon N plus 1 est un con. Le N plus 1 en entreprise.
C'est le vôtre, c'est Laurence Bloch. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire?
Il n'y a pas quelqu'un entre nous?
Je pense pas.
Il y a un bon paquet de connards entre Laurence Bloch et vous, à mon avis, Charlie.
Mais on n'a pas de manager. On n'a pas de manager. Le N plus 1 en entreprise, c'est le manager. Okay, bon, après, comme notre N plus 1 a lui-même un N plus 1. Qui est notre N plus 2, donc.
Salut Sybille.
Il est le con de son N moins 1, évidemment. Dans 50% des démissions, le déclencheur, c'est l'attitude de son manager. Et dans la pratique, c'est comme ça.
Je crois qu'on doit pouvoir, on va vérifier, vous communiquer la fiche de poste de l'auteur. On va vérifier. Voilà.
Elle est
classifiée.
Elle est forcément classifiée. Forcément. Elle touche à l'organisation. Donc il y a l'enquête en cours. Mais tout ce qui touche à l'organisation des services de renseignement sont classifiés. Donc on ne pourra pas vous la communiquer. Alors, mais on peut en parler néanmoins.
Non, vous savez ce qu'on va faire ? On va la communiquer à la mission.
Voilà. La délégation parlementaire.
Ouais, voilà. C'est mieux. Hein. Voilà. Ouais, c'est mieux.
On vous conseille la vidéo quand même.
Sur Public Sénat. Donc Castaner a bien fait d'emmener Laurent Nunez son N-1 parce qu'il lui a rattrapé quand même une grosse connerie. Alors, la première fois, Julia De Funès, que j'ai découvert ce terme, moi, c'était assez récent, c'est il y a 2-3 ans, que je parlais avec quelqu'un qui travaille en entreprise qui m'a dit comme ça très naturellement « Oui, mon N-1, mon N+1 ». Pardon, mais j'étais sous le choc, moi. Presque du dégoût de ce terme, c'est incroyable. Ça existe depuis quand et est-ce que c'est pas violent ? N+1, N-1.
Ouais, c'est des opérations mathématiques, des soustractions, des additions. On nomme plus personne. Il n'y a plus du tout d'individualisation. Ça fait partie du mal-être aussi généralisé en entreprise. C'est-à-dire qu'on ne s'appelle plus par son prénom véritablement. Il n'y a plus réellement de contact. On ne se parle même plus. Quand on est en open space et qu'on a quelque chose à dire à son voisin, on envoie un email parce que on a peur de déranger tout le monde. Et ça, c'est une cause.
C'est pour pas que le patron l'élise.
Et donc, mais c'est une source de mal-être, effectivement, de pas être singularisé. Dans l'entreprise et de ne pas avoir de contact direct, de parole directe avec les collaborateurs.
Et c'est l'occasion de vous demander qui est ce fameux Chief Happiness Officer, le CHO.
Le CHO, c'est pas loin de CHU d'ailleurs, si vous remarquez.
Oui, c'est vrai.
En général, le passage est direct, c'est-à-dire que c'est pour moi un emploi fictif. Pourquoi ? Pas parce que les personnes ont des qualités, encore une fois, c'est ce que ne comprennent pas les coachs quand je les critique. Ce sont des personnes qui ont parfois des très grandes qualités, on les choisit pour ça, parce qu'il n'y a pas de formation pour être CHO. On ne peut pas faire une école pour être CHO. Donc déjà, c'est difficile de dire que c'est un métier. Ça ne s'apprend pas. Deuxièmement, le CHO est un emploi fictif. Pourquoi ? Parce que il prétend... C'est un officier en chef du bonheur, si vous traduisez en français, c'est absurde.
Le chef de la joie.
Voilà, le chef de du bien-être. Pourquoi c'est une fiction ? Parce que le bonheur est indéfinissable. Si je vous demande là autour de la table quel serait votre bien-être, votre bonheur demain, on aura autant de définitions que de personnes sur la table.
C'est
quelqu'un va me dire boire de l'alcool, quelqu'un d'autre va me dire gagner de l'argent, peu importe. Donc on prétend s'occuper de quelque chose qui est indéfinissable. Ça fait 2500 ans que les philosophes ont essayé de définir le bien-être. Ils n'y sont jamais parvenus parce que c'est une... Vous savez, la phrase de Pascal Bruckner est magnifique. Dans l'euphorie perpétuelle, il nous dit « Le bonheur, c'est une eau qui épouse 1000 formes, mais qu'aucune forme n'épuise. » Voilà, ça, c'est pour ça que je dis que c'est un emploi fictif. En plus, le bonheur est un état qui dépend de personnes qui vont bien au-delà de la sphère strictement professionnelle. Si mes enfants vont mal, je vais forcément travailler de façon moins concentrée, moins bien. Et puis, c'est un état très aléatoire, très éphémère. On est très heureux 3 semaines, on peut être très, très malheureux les 2 semaines d'après. Donc, prétendre gérer le bien-être des gens, ça me pose un léger problème.
Mais par exemple, pour Noël, chez les Moix, est-ce que ce serait pas bien qu'il y ait quand même un chef
dans ce cas-là, c'est vrai.
C'est vrai, vous ajoutez dans le livre, vous dites c'est aux personnes les plus charmantes de l'entreprise que ce rôle revient généralement, celle dont le sens de la fête, du rire et du ludique demeure de toute façon inépuisable. Et puis comme vous le dites, il n'y a jamais eu autant de chief happiness manager
et jamais eu autant de mal-être. C'est pour ça que la critique n'est pas infondée. C'est quand on voit les chiffres, jamais les managers, même les N+1 a priori les plus cons, jamais les entreprises ont fait autant pour le bien-être des salariés et il n'y a jamais eu autant de mal-être. Les burn-out, les bore-out, les brown-out et les arrêts maladie qui n'en finissent pas
de croître.
Oh là là,
on va vous engager. Oh là là, c'est tous les mots qu'on adore.
Vous nous mettez en joie.
Julia De Funès avec nous. Et passons la parole au scientifique de l'équipe, Max Bird.
Et oui, alors on va parler un peu de science. On va parler des prix Nobel parce que ça y est, c'est tombé. Le prix Nobel de médecine vient d'être remporté par messieurs Kaelin, Radcliffe et Semenza. On les applaudit bien fort.
Bravo.
Prix Nobel de médecine, c'est la grande classe. Mais pourquoi qu'ils ont reçu cette distinction suprême ? Parce que ce trio a mis en évidence les mécanismes moléculaires à l'œuvre dans l'adaptation des cellules à l'apport variable d'oxygène. C'est émouvant.
Ouais, vous pouvez nous en dire plus quand même, Max, parce que là.
Non. Démerdez-vous. Alors bien évidemment, ça sonne hyper compliqué, mais je vais essayer de vulgariser avec un univers familier.
D'accord.
Considérons Guillaume Meurice, ici présent, comme une cellule. Bon. Okay. Une cellule a besoin d'oxygène pour fonctionner. Là où Guillaume Meurice a besoin de passants dans la rue qui disent des trucs à son micro. De préférence, des avis mesurés et solidement sourcés, comme cette dame qui vous expliquait la dernière fois que l'espèce la plus menacée d'extinction n'est pas le rhinocéros blanc, mais le trisomique.
Oui. Voilà.
Ça là, je l'ai encadré, je l'ai mis au-dessus. Elle, c'est la prix Nobel de l'année prochaine, probablement.
Mais il y a des jours sans. Il y a des jours où l'oxygène se fait plus rare. Il y a des jours où, pour Guillaume Meurice, il n'y a pas une manif anti-avortement à se mettre sous la dent. Il n'y a pas un meeting de Benjamin Griveaux où il laissait traîner son micro. Et là, Guillaume, vous suffoquez. Voilà, vous vous roulez en boule dans des tracts de la manif pour tous en criant « Votez Giscard, vous n'êtes pas bien ». Eh ben, dans ces périodes creuses, qu'est-ce que vous faites plutôt que de paniquer? Vous allez voir Edith, l'esthéticienne, exact. Parce qu'elle, qu'importe le jour de l'année, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, elle est là avec son franc-parler décomplexé légendaire qui va nourrir votre micro et vous permettre de pondre votre chronique. En gros, vous savez vous adapter en l'absence d'oxygène. Pour notre corps, c'est un peu pareil. Nos trois heureux chercheurs ont découvert que nos cellules bénéficient de la présence d'une Edith. une protéine qui est toujours là au cas où le niveau d'oxygène serait trop bas pour booster un peu la captation en oxygène et donc l'apport en énergie. Et elle est, ça qui est dingue, c'est que cette protéine, elle est constamment générée par la cellule, mais quand il y a assez d'oxygène, Edith s'auto-détruit. Ça n'est pas exactement ce bruit-là, hein, mais je vulgarise. Et puis elle s'appelle pas Edith, non, mais H-I-F-1.
Ah, c'est pas loin.
Ce qui est joli aussi. Ouais. Et c'est entre autres pour avoir mis en évidence l'existence de cette protéine que ces chercheurs ont été distingués cette semaine.
Oui, alors merci pour cette clarification, mais à quoi peut bien nous servir de connaître l'existence de cette protéine, Max ?
Eh bien, en développant des médicaments qui ciblent l'action de cette protéine, on pourrait augmenter l'apport en oxygène dans des cellules quand on manque d'oxygène, en altitude par exemple, ou pour les patients qui respirent mal. Donc une très bonne nouvelle pour les gens qui souffrent d'anémie et pour tous les coureurs du Tour de France qui vont pouvoir grimper des cols à la verticale tout en jonglant avec des haltères et sans force. Ce serait, à mon avis, bien plus sympa à regarder, d'ailleurs.
Oui, alors on raconte aussi que cette découverte, elle permettrait de mieux guérir le cancer. Bah, comment c'est possible ?
Alors, je vais encore essayer de vulgariser avec un univers familier. Considérons Éric Zemmour, ici pas à présent, comme une tumeur cancéreuse. Voilà. Mais les tumeurs cancéreuses, elles exploitent les systèmes qui boostent l'arrivée d'oxygène pour se développer. Elles ont besoin d'oxygène aussi. Donc, en désactivant l'action de la protéine HIF1, on coupe les vivres à la tumeur qui cesse de se répandre. C'est un peu comme les publicitaires qui retirent leurs annonces des émissions d'Éric Zemmour, ainsi en bloquant l'arrivée d'argent qui finance les tribunes. Eh bien, on limite le développement du cancer. Enfin, du Zemmour. Voilà.
C'est presque clair, dis donc.
Mais oui, mais carrément. Oui. Et donc voilà, qui eût cru que la vie de nos cellules pouvait aussi avoir des applications concrètes dans la vie et que finalement, ces gens qui ont eu le Nobel de médecine, si on arrive à appliquer ça dans la vie politique, on pourrait aussi leur donner le Nobel de la paix.
Voilà. Merci, joli. Max Bird. Et vous avez aimé notre numéro de Fred et Jamy ou pas?
Vous jouez très bien. Vous jouez très bien.
Mais dites-moi, Jamy.
Jamy.
Merci, Max. Vous écoutez France Inter. Nous sommes en compagnie de la philosophe Julia de Funès, qui publie Le développement impersonnel aux éditions de l'Observatoire. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Nuts melt in her mouth, but not in her hand. No need to figure it out. She just likes Pop qui veut devenir James Bond sur France Inter. Et vous avez entendu, j'ai pas fait attention, attention, on va arriver parce qu'on a écouté la musique. Parce que c'était beau. C'est la programmation musicale de Chewbacca. Vous écoutez France Inter. Nous sommes en compagnie de Julia De Funès, la philosophe. Et à côté de vous, il y a Guillaume Meurice qui s'est intéressé à votre champ d'études.
À votre œuvre. Oui, je vais vous parler pénibilité au travail aujourd'hui, un sujet que je connais bien, hein, puisque vous voyez avec qui je travaille. Je vais vous parler de ça parce que Macron a dit qu'il n'adorait pas trop l'expression parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Et Macron, le dernier sentiment qu'il a eu, c'est une demi-molle devant la courbe d'une cicave. Donc il s'y connaît vachement en sentiment. Alors, la pénibilité au travail, est-ce que c'est une fiction? J'ai d'abord voulu mener mon enquête en interne. Hein. Je suis allé voir les techniciens de France Inter qui m'ont répondu la pénibilité au quoi? Non, c'était pas gagné. Donc, je suis plutôt allé au grand congrès de la BPI, la Banque Publique d'Investissement, avec plein d'entrepreneurs pour remettre la France au travail et pour démontrer que les allégations gauchisantes tendance bolchévique de Julia De Funès sont influencées par le lobby de la feignasserie. On le sait très bien. On commence tout de suite avec deux start-upeuses pour qui le bonheur au travail est total.
Si on est heureux, eh bien rien n'est pénible en fait.
Mais quand on a un boulot un peu chiant?
Bah après, on va peut-être trouver son bonheur dans les relations humaines qu'on a avec ses collègues.
Et si les collègues sont chiants aussi?
Créer votre boîte.
Voilà.
Il faut inventer une appli, quoi.
Donc, si vous êtes malheureux au travail, devenez start-upper.
Exactement. Bien sûr.
Ça fait moi la maline. C'est ça qui piche pas les gens. Si vous n'êtes pas heureux, vous créez votre boîte. Vous vous endettez pour 20 ans, vous hypothéquez vos gosses et vous êtes heureux. C'est le bonheur. Moi, quand je vois des SDF, des fois, je me dis, mais quel gâchis. C'est des start-upers. Ils sont habitués à dormir par terre, ils bouffent des sandwichs. Ils sont déjà start-upers dans l'âme. Continuons d'ailleurs avec une start-upeuse. Comment elle rend ses salariés heureux?
En leur donnant une touche d'humanité, en leur disant qu'ils sont importants, parce que si un salarié vient et qu'il ne se sent pas bien au travail, il ne travaille pas avec plaisir et donc forcément le rendement n'est pas bon.
Est-ce que le salaire, ça joue aussi?
Non,
le salaire n'aide pas. Voilà, double chèque pour Juju. C'est ça que les gilets jaunes n'ont pas pigé. Hein. Ils sont chouinés sur leur pouvoir d'achat. Alors que l'important, c'est la part d'humanité, vous avez entendu. Moi d'ailleurs, je voulais acheter le livre de Julia De Funès, puis je me suis dit, ça va lui faire du pouvoir d'achat. Et c'est pas ça qui est important. C'est votre part d'humanité, Juju,
exactement,
qui est important.
Donnez-moi un peu.
Et ça, c'est quelque chose qui est très répandu chez les patrons de start-up et les entrepreneurs en tout genre. Ne pas trop payer les gens, car l'argent, c'est nul.
Est-ce que vous avez eu beaucoup de gens qui étaient trop payés? Et est-ce que vous avez vu s'ils emmenaient dans leur cercueil leurs billets?
Oh, c'est beau ce que vous dites.
Merci.
On dirait du Francis Lalanne un peu.
Non, parce que je sais pas jouer de guitare.
C'est con parce que ça sentait le disque d'or. Enfin, peut-être pas en or, parce que ça fait un peu trop de pognon, mais le disque en bois. Alors, c'est un subtil dosage de payer les gens. Comment on peut les rendre heureux, les gens?
En les payant à la valeur ajoutée qu'ils apportent. Trop payer quelqu'un, ce n'est pas le reconnaître. Le payer à sa juste valeur, c'est le reconnaître. Sinon, si jamais vous étiez trop payé, vous auriez l'impression d'être un voleur.
J'avais jamais pensé à ça.
Eh ben, venez chez nous, vous serez heureux.
Et voilà.
Au secours.
Aucun risque d'être trop payé. Ouf. C'est vrai que c'est la crainte qu'on a tous ici. Quand on a un job, de pas mériter son salaire. Moi, j'ai cette crainte en moi. Tous les jours, moi, je suis payé pour dire des conneries. Quoi. C'est mon point commun avec Christophe Castaner, d'ailleurs. Et ben, ouais, je vais vous dire, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait plein de petits boulots, dont le plus galère pour moi, et je crois que Juliette est d'accord avec moi, caissière en supermarché. Alors, comment, sans augmenter les salaires des caissiers et caissières, faire en sorte qu'elles trouvent quand même leur bonheur?
Le fait de travailler, c'est se réaliser. Si on arrive à regarder quelle est l'identité professionnelle d'une caissière, qui est une personne hyper importante parce que c'est le dernier regard pour le client dans un magasin. Et si on arrive à lui faire comprendre et à faire comprendre au client l'importance de cette caissière-là, alors ça veut dire qu'elle a une valeur ajoutée et cette valeur ajoutée-là, il faut la reconnaître. Et en faisant ça, le poste de caissière peut être un super beau poste.
Et voilà.
Eh
ben, ce qu'il fallait démontrer, Juju. Et voilà.
Je tiens plus, hein.
Elles ont... Elles n'ont pas le réflexe, les caissières. C'est ça, quand on leur interdit des pauses pipi ou que les clients les insultent parce qu'elles vont pas assez vite, elles se renferment, voilà. Alors que le fait de travailler, c'est se réaliser. Julia, d'accord, ok. On ne naît pas burn-out, on le devient.
Oui.
C'est ça qui est important. Et le bonheur, je vais même vous dire, c'est international. Ce monsieur, il a été en Afrique.
J'ai vu des petits Marocains, j'ai vu des petits Tunisiens, beaucoup plus heureux à pousser leur boîte de conserve avec leur fil de fer que des gamins devant leur télé avec la dernière Playbox. Et le bonheur, il est là.
Donc, faut pas donner de l'argent à des pauvres parce que sinon, ils risquent d'être malheureux.
Mais pourquoi vous polluez tout avec l'argent?
Ah, pardon.
Qui vous a parlé d'argent?
Non, mais pardon, c'est moi.
Dans le bonheur, vous mettez systématiquement l'argent?
Non, non, mais c'est bon, pardon. Bah, non, non, mais je reconnais. Je fais des boulettes, des fois, je débute, je suis con. L'argent ne fait pas le bonheur, évidemment. Et c'est pour ça que moi, je voulais le redistribuer, l'argent. Parce que je vois bien que Bernard Arnault, Bolloré, Pinault, ils sont pas heureux. Je voulais leur enlever juste un petit peu de malheur. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les pauvres qui s'amusent avec leur bout de bois et leur tuberculose. Il n'y a pas de raison non plus d'ailleurs de laisser la parole sur le travail uniquement à des politiques qui ont d'ailleurs jamais bossé de leur vie, parce que ça, c'est vraiment pénible.
Merci Guillaume Meurice. Pendant votre chronique, alors, Julia de Funès est partie. Je veux dire, à fumer des naseaux tout en prenant beaucoup de notes.
Je sais même plus par où commencer. Mais voyez, en fait, l'origine de la souffrance, mais c'est tout ce déni, tous ces poncifs dont on ne peut plus. Évidemment, je passe sur la comparaison avec les jeunes Marocains. Je disais, mais c'est indigne, franchement, c'est inhumain. Ça, pour le coup, c'est vraiment inhumain. Parler d'humanité et de reconnaissance. C'est vrai que la reconnaissance est un ingrédient absolument essentiel pour se sentir bien au bureau, mais la reconnaissance, elle vient d'où? Il faut laisser les gens agir. Vous savez, le raisonnement sous-jacent qu'on rencontre dans l'entreprise et un peu partout, le poncif, et les coachs me le rappellent sur les réseaux régulièrement, qui est pour moi un faux raisonnement, c'est de dire... Des gens heureux au boulot seront plus performants. Finalement, c'est ça qui est au fond de cette idéologie du bonheur. C'est un faux raisonnement qui prend la cause pour la conséquence. C'est pas du tout parce que des gens vont être heureux. On est heureux à partir de quoi? Encore une fois, c'est personnel, on l'a dit tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est heureux qu'on va être performant, mais c'est quand les gens ont la possibilité d'agir et éventuellement d'être performants qu'ils se sentiront beaucoup plus heureux au boulot ou ailleurs. Donc le bonheur, c'est une conséquence d'une action. C'est pas une condition from scratch qui tombe du ciel.
Non, vous avez dit from scratch.
Ah là, oui,
là, 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 là. C'est de la double langue, attention.
Ex nihilo.
Et donc c'est une conséquence. Laissons les gens agir à partir d'eux et arrêtons avec les recettes bien pensantes, la bien pensance qui engourdit les intelligences. C'est euphémique.
Mais ça, il y a des chances qu'ils soient partiellement d'accord avec vous. En fait, le problème, souvent, enfin moi j'en ai discuté avec pas mal ce matin, c'est que ils les payent mal. Ils payent mal les gens et ils disent mais c'est pas grave, ils sont heureux.
Bien sûr, ils justifient
eux-mêmes.
En fait,
c'est plutôt ça. Ils remplacent le pouvoir d'achat par.
Bien sûr.
Bah, c'est cool quand même.
Eh ben, c'est bien commode tout ça. Merci Guillaume Meurice.
Merci.
Julia de Funès. Oui, il y a un nouveau sujet d'étude là. Vous allez relire vos notes en rentrant, ça va. Il y a un prochain livre.
Je vous rappelle que la DRH de Radio France fait la même chose. Ouais. C'est quand même super, c'est service public, vous êtes heureux.
C'est vrai.
C'est
vrai. Vous amusez bien, vous entendez l'antenne rigoler. Ah bah alors. C'est vrai, les techniciens, bon, tout ça, les réalisateurs, ils sont contents de travailler, ils rigolent tous les jours. Voilà, bam, allez. Coucou l'N plus 1. D'abord, cet autre sujet. Alors là, on va monter encore d'un cran, parce que quand la Corée du Nord se la joue Startup Nation, là, elle plie le game. Ouais. Alors que des start-up françaises, dans les start-up françaises, on développe des espaces détente avec un baby-foot ou encore des jeux vidéo, les entreprises nord-coréennes mettent en place des karaokés, des auto-tamponneuses, des parcs aquatiques où la famille est invitée aussi à passer du temps. Parce que les loisirs et le bien-être, c'est la priorité du régime nord-coréen, avec son corollaire, l'injonction au sourire. Alors à quoi ressemble la vie en entreprise à Pyongyang ?
Poodle, le géant des nouvelles technologies, recrute. En devenant salarié chez Poodle, vous bénéficiez d'un environnement de travail des plus confortables au monde où tout est pensé afin de faciliter la détente et le bien-être des employés. Hamac dans votre bureau pour pouvoir travailler sans vous fatiguer, salle de gym, plusieurs piscines et de nombreuses activités sportives pour la détente, salle de musique, cinéma pour laisser libre cours à vos inspirations, plus de 500 restaurants gratuits, des bars à fruits, bars à smoothies, bars à jus d'herbe, bars à sieste, bars à pute, dortoir, appartement sur site, cabane de bureau, douche, coiffeur gratuit, massage gratuit, médecin, bowling, zoo, parc d'attractions, le tout agrémenté d'un salaire de 128 000 $ par an minimum afin de séquestrer nos employés sans avoir besoin de les attacher.
Eh oui, moi, ça fait un an que j'ai pas vu mon mari et mes enfants.
Vivez la vie rêvée de salarié avec Poodle Life.
C'est une fausse pub de François Audouin, notre réalisateur, diffusée dans l'émission d'Ali Rebéi, Grand bien vous fasse. Vous voyez que François Audouin, notre réalisateur, il s'épanouit dans son travail.
Alors, on va le payer moins.
Trop le payer.
Alors, c'est d'après un reportage paru récemment dans le journal L'Opinion, où on est assez proche de la réalité. Ils décrivent ce qui se passe dans certaines grandes entreprises nord-coréennes, où les familles sont les bienvenues autour de la piscine. Et puis pour la population, il y a des parcs d'attractions qui sont dans des lieux stratégiques, près de la maison natale de Kim Il-sung, des karaokés. Vous parlez d'euphorie conformiste dans votre ouvrage. Est-ce que c'est dans les dictatures, et particulièrement peut-être en Corée, qu'elle est poussée à son paroxysme? Et est-ce que ça veut dire quelque chose de quand on l'utilise un petit peu chez nous, en démocratie?
Oui, mais c'est l'empire du bien. C'était une expression de Philippe Meret, mais c'est exactement ça. C'est une tyrannie, une bonté despotique. parler au nom du bien, viser le bien, il n'y a rien de pire comme tyrannie. Hitler visait un certain bien pour l'humanité, bien sûr. Mais au nom du bien, ça se complique. Donc voilà, c'est une tyrannie de vouloir conformer effectivement tout le monde et d'imposer des marathonnades de bien-être. On le voit dans nos entreprises même ici, de façon moins prégnante, moins forte peut-être. Mais en tout cas, le problème, c'est que ça ne rend absolument pas les gens heureux, puisque c'est une forme de servitude aussi. Et c'est très dangereux. Je ne sais pas si vous avez lu, si vous connaissez le massacre de Pangbourne de James Ballard, qui a écrit ça en 88. Et en gros, c'est dans une petite banlieue de Londres. C'est une petite ville où c'est vraiment l'euphorie perpétuelle. Tout est réglé. C'est exactement la Corée du Nord que vous décrivez, les entreprises de Corée du Nord. Et puis, les enfants finissent par tuer leurs parents. Pourquoi ? Parce que le seul moyen de retrouver son autonomie, ça va être le vice ou la tuerie ou la folie d'une certaine façon. Donc c'est très dangereux d'imposer le bien parce qu'à un moment, un jour ou l'autre, il y a une révolte pour retrouver ce sentiment d'être une personne, d'agir à partir de soi-même et ça peut se faire par les pires massacres d'une certaine façon. Donc les bonnes intentions peuvent se retourner en catastrophes terribles.
Et puis il y a la volonté dans la Corée du Nord de masquer bien sûr la pauvreté, la dictature, etc. Et que les gens sourient et l'illusion du bonheur.
Mais c'est un peu exactement la même chose dans l'entreprise aujourd'hui. On affiche un bonheur, mais les gens, on l'a dit tout à l'heure, sont absolument très malheureux. Et ce bonheur-là passe par la ludification, c'est très important, la gamification.
On est attiré par ça ou pas ? Parce que quand une entreprise, on en connaît, on ne citera pas, mais on est allé dans un média qui faisait tellement start-up avec barre à smoothie, pouf, canapé en cuir, qui incite à rester.
Oui.
Et on se dit, mais est-ce qu'on est... Hein, c'est pas chez nous.
Non, pouf, le fauteuil.
Est-ce qu'on est assez couillon que pour se dire, oh, dites donc, c'est sympa, je vais rester après le bureau.
Parce que c'est du conformisme, ça fait partie de la cage dorée. Entre deux boîtes qui font la même chose, on va préférer aller effectivement dans celle qui a le rooftop végétalisé, les tomates cerises, les pots de miel et les smoothies bio. Mais en revanche, j'ai jamais vu quelqu'un quitter une boîte parce qu'il n'y a pas de baby-foot. C'est pas une condition essentielle de bonheur. J'ai jamais vu ça.
Alors je tiens à dire que nous, on a un aquarium, parce qu'il y a l'association aquariophile de Radio France, et on les aime beaucoup. Et puis on a des ruches parce qu'on est une association apicole à Radio France. Donc au moins on a deux trucs un peu
chouettes.
Juliette de Funès, je vous ai interrompu.
Effectivement, tout ça, ce sont des artifices bonheuristes. C'est très sympa d'avoir un cadre de boulot agréable. C'est pas du tout ce que je critique. Mais prétendre rendre les gens heureux à partir de ces artifices bonheuristes, c'est là qu'on prend les gens pour des imbéciles. Je pense que le sens, l'autonomie, la reconnaissance, la confiance sont beaucoup plus essentiels pour les collaborateurs que tous ces petits gadgets et joujoux de joie.
Julia de Funès, philosophe avec nous. Juliette Arnaud, vous avez choisi un livre pour notre soirée, nos jours à venir.
Oui, pour vos jours à venir. Je voulais commencer en vous disant, Julia, que j'ai tout bien compris votre livre.
Merci.
Et je vais le résumer de la sorte. La vie, c'est pas comme la recette du gâteau au yaourt. Et c'est agaçant, je sais. Moi aussi, je préférerais me planter devant mes problèmes, dire abracadabra, et la lumière serait, le chardonnay serait frais, et Brad Pitt sortirait de Fight Club, et on irait adopter un chiot, et on l'appellerait Jean-Paul. Mais ça n'arrive pas. Alors on arrête avec les gâteaux au yaourt, on délaisse les rayons surpeuplés des livres dits de développement personnel, et on se rabat avec courage sur ceux de philosophie et de littérature. Et si t'en veux du personnel, eh bien je ne sais pas. Et écoute Stendhal, par exemple. Embrasse la passion. Parce que, je vous cite, Julia, dans la passion, on manifeste son moi le plus profond et l'émotion l'emporte sur les codes sociaux. Ou je ne sais pas, relis Shakespeare, pose-toi la question. Que serait devenue Juliette si elle n'avait pas rencontré Roméo ? Et ben la seule bonne réponse, c'est vivante. Ah, merde. Et si Julien Sorel n'avait pas rencontré Madame de Rênal ? Potentiellement, il serait moins guillotiné. Merde de rechef. Eh ben oui, la vie, l'amour, c'est définitivement pas une recette de gâteau au yaourt. Et cette BD, dont je vais vous parler aujourd'hui, intitulée « Tant pis pour l'amour » ou « Comment j'ai survécu à un manipulateur », justement, n'est pas un manuel de développement personnel. Elle ne contient aucune recette facile. C'est juste le récit d'une histoire qui a l'air d'être une histoire d'amour et de passion, mais qui n'en est pas une. Comme la bière sans alcool. Ça a l'air d'être de l'alcool, mais ça n'en est pas. Sauf que la bière sans alcool, normalement, tu risques pas grand-chose. Tandis que tomber folle amoureuse d'un manipulateur, ça peut t'emporter far, far away au pays de l'enfer sur Terre. Eu égard à ma propre expérience de l'enfer sur Terre, charnue en ce domaine, je pense pas que j'aurais lu cette BD, mais voilà, Guillaume Meurice me l'a tendu un jour au bureau en me disant « Écoute, je l'ai lu cette BD, elle m'a plu beaucoup, et je pense qu'elle pourrait te causer. » Alors je l'ai lu et je l'ai adoré. L'argument. Sophie, from Vesoul, rencontre Marcus, le comédien de Paris. Ils tombent amoureux et ils sont heureux. Et puis Marcus, qui avait l'air d'une pâquerette, se transforme en mine antipersonnelle très bien cachée sous les pieds de Sophie. C'est comme si Lelouch avait refilé la caméra à Lars von Trier. Catégorie de lecture. D'une traite, avec la voix intérieure à bloc qui va de « Oh !» à « Non, mais non, mais non !» puis « Allez, Minotte, tiens le coup !» Le ton. Sophie ne s'apitoie pas sur elle-même. Elle est précise, elle est affûtée, parce que si elle a un but, raconter son histoire en répondant aux questions suivantes, comment on s'échappe, comment on survit, Sophie en a un autre de but. Ne plus se voir comme un petit mouchoir usagé, déchiré et oublié au fond d'une poche de manteau. Alors apparaît la question de fond, pourquoi moi ? Sophie a une autre arme, c'est l'humour. Elle a Chocolat, qui est beaucoup à l'image. Chocolat, c'est un ours en peluche qui lui vient de l'enfance et qui picole. Et qui incarne la conscience de Sophie. Mais c'est souvent ça, les consciences, ça picole. La petite voix qui lui dit que ça le fait pas, que ça va pas le faire, que Marcus est un sac à pu, mais que Sophie n'entend pas, tant elle est occupée à bouffer le carrelage de sa salle de bain. Dans le sous-titre, il y a le mot manipulateur, c'est celui que Sophie choisit, mais qui en contient d'autres, que Sophie choisit de ne pas choisir. Elle n'est pas la psychiatre de Marcus. Ce sont les mots sociopathe, pervers narcissique, vampire psychique. La différence entre ces trois termes, c'est ce que la douleur des autres leur procure, l'indifférence ou le plaisir ou rien du tout. Mais vu que vous n'avez pas l'intention, tous autant que vous êtes, de faire 10 ans d'études de médecine pour devenir psychiatre, laissez tomber les nuances, faites comme Sophie, barrez-vous. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnault, merci. Rappelez-nous les références.
Alors elle s'appelle Sophie Lambda, le bouquin s'appelle Tant pis pour l'amour, c'est une BD vraiment remarquable et c'est chez... Une case en moins.
Une case en moins, très bien. Merci beaucoup Juliette. Moi aussi j'ai une référence à vous soumettre, chers auditeurs. C'est la sortie d'un livre qui s'intitule Louis de Funès.
Qui est cet homme?
Écrit par Clémentine de Roudy et que vous préfacez, Julia de Funès, puisqu'il s'agit de votre grand-père.
Petite fille de Bourville.
Et un texte de Nicolas Mathieu, aussi prix Goncourt. Ouais. C'est paru chez Flammarion. Alors il y a le logo de la ville de Saint-Raphaël.
Oui, parce aussi, que c'est le livre qui correspond effectivement au musée qui, est, qui a été inauguré en juillet, le 31 juillet dernier, à Saint-Raphaël. Et donc, grâce au maire Frédéric Masquelier, il y a un très très beau, et Clémentine de Roudy, évidemment, qui a mis en scène ce musée-là. Il y a un très beau musée, petit, mais qui lui ressemble. On se retrouve au musée comme on se retrouve devant ses films. C'est chaleureux, c'est marrant, les gens rigolent, les enfants ont plein d'activités. C'est pas du tout un musée austère, froid, sinistre. Donc on est très heureux, effectivement, qu'il y ait ce musée-là et qui marche très bien.
Et c'est pas loin de Saint-Tropez, de Saint-Gendarmerie, voilà, bien sûr. C'est un très très beau, très beau livre avec plein de photos, d'affiches de films, de lettres aussi qu'il écrivait à sa maman, etc. C'est très émouvant, comme on l'adore tous. Au-delà du raisonnable, je pense que vous serez très heureux. Paru chez Flammarion. Oui, de Funès. Donc, Julia de Funès, on avait un petit dernier sujet à vous proposer, mais qu'on va aborder très sommairement, juste pour vous demander, comme vous étudiez la littérature de développement personnel, etc., et que vous démontez sa mécanique rhétorique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des mentors? C'est-à-dire que c'est un article que nous avions lu dans Le Parisien aujourd'hui en France la semaine dernière, qui explique que c'est plutôt un échange bénévole, un petit peu entre générations. Ça peut être aussi une association qui va aider un enfant peut-être de 6 ou 7 ans de quartier défavorisé à apprendre le français, ou un cadre en entreprise qui a une soixantaine d'années, qui va un peu booster l'ego d'une jeune étudiante un peu perdue, etc. Est-ce que là, c'est du... Comme il y a du bénévolat, est-ce qu'on peut parler de coaching?
Non, c'est pas l'histoire de l'argent qui me gêne plus dans l'histoire du coaching. C'est l'histoire d'emprise possible. Et c'est ce que vous avez raconté à travers l'histoire de la BD. Ça peut être très bien parce que beaucoup de gens sont excessivement seuls. Et si un jeune homme ou une jeune femme se retrouve seule et qu'elle peut parler et être écoutée, c'est fantastique. Donc encore une fois, le problème, c'est dans la personne qui va mentorer l'autre personne. Mais souvent, malheureusement, ce que je critique un peu, c'est que c'est souvent un symptôme qui se prend pour un remède. C'est ça le problème, c'est un symptôme parce que ça cache quoi? Un mois perdu, et ça on peut le comprendre très bien. Ça cache une idéologie de l'égalitarisation. Il faut qu'on ait un ami, il faut qu'on ait... Le mentor devient, c'est plus du tout cette figure autoritaire, pas au sens autoritariste, hein, mais d'autorité qui vient faire grandir l'individu et qui vient le libérer, si c'est ça, c'est très bien. Mais très souvent, on veut un confident, on veut le même que soi, on veut être compris par l'autre et on ne sait pas d'où vient cet autre-là. Donc ça peut être malgré tout très dangereux, voilà, comme très bénéfique aussi.
Julia de Funès, Alex Vizorek.
Eh bien, en fin d'émission, parfois c'est le questionnaire du Jupy Proust, c'est le questionnaire de Proust, mais adapté à nos angoisses à nous. Vous réfléchissez pas trop, mais
non,
vous répondez quand
jamais,
même.
Jamais, vous savez.
Sur une échelle de 0 à 10, vous vous sentez capitaliste à combien?
9.
Oh, pas mal. Sur une échelle de 0 à 10, vous vous sentez communiste à combien?
2.
Ça fait 11. Avec quel animal aimeriez-vous avoir une conversation?
Je sais pas,
Christophe Castaner, ça marche.
Non, la panthère des neiges de Tesson qui vient de sortir son livre aujourd'hui et qui a l'air sublime. Avec elle.
Quel animal aimeriez-vous faire l'amour? C'est dangereux avec une panthère des neiges.
Oui. Eh bien, écoutez, un lion.
Un lion, bah oui, c'est pas tellement moins dangereux. Quel défaut de votre grand-père détesteriez-vous avoir?
Bah, celui que j'ai, c'est-à-dire l'impatience.
Quelle qualité préférez-vous chez Bourville?
C'est la tolérance vis-à-vis de mon grand-père.
Pauvre homme. On est avec toi, Louis. Si vous deviez épouser un personnage de fiction de Louis de Funès, qui choisiriez-vous?
Rabbi Jacob.
Quelle astuce pourriez-vous donner à Dieu pour que les gens croient davantage en lui?
Bah d'arrêter de nous faire mourir.
Ah oui, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Pour prendre le thé, est-ce que vous préfériez être invité dans le salon de Melania Trump ou de Michel Bolsonaro?
Melania Trump.
Ah ben moi aussi. non, je sais bien, mais je l'ai donné. Ça m'a échappé. Si vous étiez obligé, c'est la dernière question, de choisir quelqu'un autour de la table pour être votre Chief Happiness Officer, ce serait, essayez de ne pas me décevoir.
ce serait vous, évidemment.
Mais je le savais. Ah oui, elle a
dit que je suis faible.
Mais non,
le désir.
Jaloux.
Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. La citation préférée de Guillaume.
Oui, c'est vrai.
Cyrano. Merci beaucoup.
Non, Étienne de la Boétie.
Ah oui, c'est pardon, c'est la Boétie. Oui, c'est
le meilleur moyen de se sentir bien, c'est quand même d'écouter une bonne émission de radio. Franchement, ça vaut mieux que tous les bouquins de développement personnel.
C'est vrai que les grosses têtes,
merci,
c'est pas mal.
Merci, Julia de Funès. Je rappelle le développement 1. Personnel aux éditions de l'Observatoire, un petit manuel de défense intellectuelle, on peut dire. Merci,
merci beaucoup.
Merci Julia de Funès, merci Max Bird, merci Juliette Arnault, Alex Guillaume.
Allez,
demain, nous.
Récupérez vos sorcières.
J'ai
menti, j'ai eu un long nez, c'est pour ça. Demain, nous recevons Guy Marchand.
Oui.
Comment? Guy. Comment ça se prononce?
Guy. Non, c'est juste Guy.